Le Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre Carré.
Bonjour, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Mag au carré, une émission que je co-anime avec Audrey Jourdain, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré, vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
En pleine forme. Ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des murs hôteliers. Et pour ce faire, nous avons une invitée en plateau, Valéria Savchouk. Bonjour.
Bonjour, Bérénice.
Vous êtes directrice générale de Terlia. Vous exploitez des hôtels. On va en parler dans quelques instants. Vous allez nous présenter Terlia. Mais avant tout, Audrey, comme d'habitude, nous allons nous mettre en jambes et commencer avec votre édito.
Le Mag au carré, l'édito d'Audrey.
Eh bien, malheureusement, nous n'avons pas encore les chiffres du marché français de l'investissement en immobilier hôtelier du premier trimestre 2023. Mais une chose est certaine, l'année 2022 fut spectaculaire. Plus de 2 milliards d'euros ont été investis sur le marché français, c'est plus de 80% sur un an. Ce fort rebond a été particulièrement porté par les régions qui ont concentré plus de 60% des investissements. Les investisseurs ont été particulièrement séduits par les excellentes performances de l'activité hôtelière, illustrées par deux records en France. Le coût moyen de la nuitée n'avait jamais été aussi haut, 107 euros, c'est plus de 40% par rapport à 2021. Autre record, le second, le revenu moyen par chambre, 69 euros, c'est plus de 85% sur un an. Mais approfondissons le sujet avec notre invité.
Les invités du carré.
Voilà, c'est le moment de donner la parole à notre invité. On est ravis de vous recevoir, Valéria Savchouk, la directrice générale de Terlia. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter Terlia ? Donc, vous gérez des hôtels, c'est-à-dire que vous n'avez pas les murs. Vous occupez de la gestion de 6 hôtels dans Paris.
Tout à fait. Alors Terlia, c'est une société de management hôtelier. Nous exploitons depuis plus de 30 ans des hôtels pour les propriétaires indépendants, mais aussi bien des investisseurs. Et depuis 2019, nous sommes adossés aux deux foncières immobilières, qui sont le groupe Terreaux et le groupe Galia, qui eux, pour le coup, possèdent les murs. Cette évolution nous permet du coup de se concentrer sur nos projets en propre et donc développer et aussi bien gérer nos hôtels en propre avec le groupe Terreaux et le groupe Galia.
Mais donc aussi, c'est deux groupes différents, mais
exactement.
Pour les deux, vous gérez tout ce qu'il y a dans l'hôtel au final, tout le personnel.
Tout à fait. On commence la gestion dès la conception du projet, donc dès le développement, le positionnement, l'étude de marché. Et ensuite, on prend en main vraiment de A à Z l'hôtel, la gestion administrative, financière, comptable, ressources humaines, mais aussi bien sûr la commercialisation, le marketing et la vente des nuitées hôtelières.
Alors là, on l'a dit, hein, 6 hôtels dans Paris que vous gérez, donc 6 hôtels que vous avez acquis au fur et à mesure de ces 2 dernières années. Quelle est votre stratégie actuelle ? Quels sont vos projets aussi pour le long terme, enfin l'année à venir là ? Est-ce qu'il y a d'autres hôtels en vue ?
Bien sûr, il y a de nouveaux projets super qui nous attendent dans les 2 prochaines années. Mais notre stratégie, c'est surtout et toujours de créer de la valeur. Donc, on va étudier chaque projet. Pour nous, est vraiment unique. Donc, on va le concevoir et l'étudier en fonction de son positionnement, de son emplacement, du lieu, de l'immeuble. Pour vraiment créer quelque chose de très personnalisé.
Là, vous les avez vraiment choisis, ces hôtels ? C'est des hôtels...
Alors, certains, oui. D'autres, on les avait également en gestion déjà avant. Et dans le futur, on souhaite aussi se développer dans d'autres actifs de l'hospitality, aussi bien des auberges de jeunesse, des hôtels plus lifestyle, mais aussi des clubs de sport, des bureaux. Et notamment un des projets qu'on aura la chance d'accueillir très bientôt dans le 17e arrondissement de Paris. C'est un lieu vraiment unique. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, aussi bien à Paris qu'en France, qui va accueillir un hôtel, un boutique hôtel de luxe de 5 étoiles, avec plusieurs points de restauration, dont un bar au rooftop avec une vue à 360 sur Paris.
Mais rêver, ça.
Également, exactement.
Ouvert au public.
Ouvert au public, surtout ouvert au quartier, qui va accueillir un club de sport, un spa et des bureaux.
D'accord.
Avec plus de 10 000 mètres carrés pour accueillir tout ça et de belles terrasses végétalisées. Donc, on amène de la nature dans Paris.
Donc ça, c'est pour Paris. Est-ce qu'il y a d'autres villes que vous visez Est-ce que vous aimeriez vous développer, je ne sais pas, à Lyon, à Marseille, à Lille, à Bordeaux, dans d'autres grandes villes françaises ?
Alors, notre ambition aujourd'hui est de continuer de se développer à Paris, mais aussi bien en France. On n'a pas de ville précise, mais on apprécie tout particulièrement le sud de la France, bien sûr. Mais aussi la montagne, tout à fait. La montagne qui s'est développée aussi beaucoup post-Covid. Mais on est aussi ouvert à l'Europe et pourquoi pas ailleurs. Tout dépend des opportunités.
Et quand vous dites l'Europe, vous avez déjà des pays en tête ?
Est-ce que Londres, par exemple. Il y a des projets qu'on a regardés là-bas aussi, ouais.
Et un peu plus loin, non, pas pour l'instant, en tout cas...
C'est possible.
C'est possible, en Asie, aux États-Unis, tout est possible.
Oui.
Tout est possible. Alors, Audrey l'a dit dans son édito, 2,1 milliards d'euros ont été investis l'année dernière. Vraiment, ça a explosé post-confinement. Comment vous l'expliquez, ça ?
On l'explique, je pense, aussi par la résilience du marché hôtelier. On l'a très bien vu post-Covid. Dès que les frontières étaient rouvertes, dès que c'était possible de voyager, les touristes n'ont pas manqué. Nos hôtels ont recommencé à avoir des taux d'occupation assez exceptionnels. Les spécialistes, les experts du secteur disaient prévoyez un retour à la normale vers 2023-2024, mais 2022 était déjà une année record exceptionnelle pour beaucoup d'hôteliers, nous également. Donc ça a montré l'attractivité de ce secteur, la résilience aussi de ce marché-là. Et surtout, quand vous investissez dans les murs et le fond, le mur, ça reste quand même une valeur refuge
immobilière. Bien sûr. Oui, ça reste de l'immobilier, c'est de la pierre,
donc,
forcément.
Tout à fait.
Et c'est vrai, alors c'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que bon, c'est vrai qu'on avait prévu, hein, je me rappelle à l'époque, du coup un retour à la normale, vous l'avez
dit, 2023.
Qui nous
paraissait très très lointain.
Et je pense que c'est l'aspect psychologique en fait qui a joué en faveur de ce secteur, parce que les touristes, les Français, en France on l'a beaucoup vu, hein, mais les gens se sont précipités dès que les confinements étaient terminés pour partir en vacances ou pour réserver, même pas loin de chez eux, dans des hôtels.
Pour profiter un peu du temps perdu, qu'on a aussi appelé le « revenge travel ». L'année dernière, qui a suscité vraiment cette vague massive, on va dire, de tourisme. Et vraiment, toutes destinations en France en ont bénéficié.
Et alors, autre chose que Audrey a dit de très intéressant dans son édito, le prix a augmenté aussi, le prix moyen de la chambre. Je crois que c'était 107 euros la nuit. Ça commence à s'expliquer. Est-ce que c'est l'inflation ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Parce que c'était avant 2022, bon, c'était un petit peu, c'était début 2022, c'était un petit peu avant l'inflation. Comment vous l'expliquez ? Comment ça se...
Alors, il y a bien sûr une part de l'inflation, mais il y a aussi la demande. Les prix sont fixés par l'offre et la demande, donc la demande était très importante. Alors, beaucoup d'hôteliers en ont profité, je peux dire, à outrance, pour augmenter leurs prix, mais dans sa globalité, vraiment, le marché a suivi cette tendance-là. Et dans nos hôtels, en l'occurrence, qu'on gère, on a constaté des augmentations entre 20 et 50% d'augmentation de prix moyen par rapport à l'année 2019, qui était déjà une année record avant 2022.
Alors là, vos hôtels actuellement, ils sont situés où ? Vous ne nous avez pas dit dans Paris.
Alors, plusieurs quartiers parisiens. On a des hôtels dans le 11e, dans le 9e, dans le 8e, dans le 16e aussi.
Donc des quartiers très différents.
Exactement.
Et là, il y a beaucoup de vacances locatives. Il y a beaucoup de réservations, de taux d'occupation de ces hôtels.
Alors, l'année 2022 a été vraiment exceptionnelle également pour nous. On a dépassé toutes les prévisions qu'on pouvait faire pendant le Covid. On a même dépassé en taux d'occupation l'année 2019.
Post-confinement, post-Covid, quoi.
Avant Covid. Pré-Covid, exactement.
Qui est à peu près de combien, ce taux d'occupation, en 2022 ?
Oui, ça dépend du niveau d'hôtel. On gère aussi bien des 3 étoiles que 4 ou 5, donc ça ne sera pas le même. Mais en globalité, on a dépassé les 80% d'occupation sur l'année, tout en sachant que début d'année était encore très touché par le Covid. Et donc là, depuis le début d'année 2023, qui a été aussi touché par les grèves, malheureusement, les manifestations, les médias en jouent aussi beaucoup à l'international. Donc c'est vrai que
ça
touche
beaucoup,
énormément la clientèle, surtout internationale, pas tant française, qui est plus habituée, on va dire, qui connaît exactement ce qui se passe dans Paris.
Qui savent que les médias exagèrent un peu.
Mais on a quand même réussi à faire nos budgets et même dépasser légèrement nos prévisions sur 2023. Mais dès le mois d'avril, nos prévisions sont très bonnes pour le reste de l'année.
Dans l'immobilier, on dit que le luxe a tiré vraiment son épingle du jeu, là, en cette période un peu compliquée. Est-ce que c'est pareil pour les hôtels, pour le secteur hôtelier? Est-ce que c'est le luxe qui continue à tirer son épingle du jeu?
Alors, il y a eu un peu dans tous les niveaux d'hôtels, on va dire. On a vu aussi des très bons résultats sur les 3 étoiles, donc du plus moyen gamme qui se rapproche limite des 4. Mmh. Donc, la limite entre les deux est vraiment très, très fine. Et le luxe, forcément, les palaces ont très bien performé également avec le retour de la clientèle internationale, américaine et Moyen-Orient.
Et justement, quelle est la part de cette clientèle versus les Français ?
Encore une fois, ça dépend vraiment de votre hôtel, de l'emplacement et de sa de positionnement, de sa composition. Est-ce que c'est plus affaires ou plus loisirs? Mais dans la globalité, les 3 nationalités dominent tous les hôtels parisiens. C'est les Américains, les Français, les Anglais.
D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve en général dans chaque hôtel. Concernant les perspectives, alors 2023 et puis 2024, comment vous voyez, quelle est votre stratégie, à quoi vous vous attendez en fait pour ces années-là? Est-ce que vous pensez que ça va continuer à performer ou ça va un peu stasser, la demande va stasser, comme on connaît une période un peu compliquée avec l'inflation? Là, vous avez parlé des grèves, l'image que reflète la France à l'étranger. Est-ce que ça va impacter un peu plus sur la durée le secteur, selon vous?
Alors, ça peut impacter, mais je ne pense pas que ça va durer parce que Paris reste Paris. Il y aura toujours de la demande. On a de la chance d'avoir aussi bien une clientèle loisir que affaires. Donc, l'attractivité sera toujours là pour ces deux types de clientèle. Et 2023-2024, avec les événements sportifs qui nous attendent aussi, qui sont très importants, très forts sur la capitale, on pense qu'on est très confiant sur ces deux années à venir et même au-delà, je pense que l'hôtellerie a encore de très beaux jours devant elle. On innove beaucoup aussi, on est résilient, on a trouvé de nouvelles idées pendant le Covid. Donc je pense qu'il faut continuer à surprendre nos clients.
Et c'est quoi vos innovations
alors ? Innover. C'est des lieux à usage mixte. C'est créer vraiment des lieux de vie, des lieux lifestyle qui sont ouverts à la ville et pas seulement des lieux touristiques. De s'éloigner un peu peut-être des hôtels classiques ou plus traditionnels où on offre une chambre d'hôtel et un petit déjeuner. Il faut offrir d'autres services, d'autres expériences aux clients justement pour les attirer dans votre hôtel plutôt qu'un autre.
Et vous sentez que la clientèle est demandeuse de ce genre de service?
Tout à fait.
Vous avez dû faire tour, justement
Tout à fait. Même, alors, il y a plein de clients à faire qui ont aujourd'hui des cartes Accor ou Hyatt, ces grandes chaînes qui leur permettent de voyager beaucoup à l'intérieur de ces chaînes-là. Mais ça reste des hôtels plus traditionnels, plus standardisés pour certains. Donc, ils cherchent plus de...
D'expérience.
Plus de lifestyle, plus de d'offres que les hôteliers puissent, des hôteliers indépendants puissent créer et leur offrir.
Et tout à l'heure, vous évoquiez les JO. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes de la part de vos clients pour
beaucoup,
cette période-là?
Alors, pas encore en individuel, puisque c'est encore un peu tôt. Mais on a des demandes de groupe et on a déjà assuré
des réservations
pour quasiment la totalité de nos hôtels.
Oui, donc nos auditeurs qui nous écoutent, voilà, il faut qu'ils se dépêchent s'ils veulent réserver pour les JO.
Ça va se remplir vite.
Un petit mot peut-être sur les problématiques que peuvent rencontrer les hôteliers, s'il y en a, j'imagine, et lesquelles sont-elles ?
Alors, je dirais le recrutement est un des challenges le plus important depuis le Covid.
Ah, mais ça impacte tous les secteurs.
Tous les secteurs aussi. Mais c'est vrai que l'hôtellerie a été déjà touchée avant par le turnover assez important, du fait que c'est des personnes plus jeunes qui veulent bouger aussi beaucoup. Donc, le challenge est pas seulement de fidéliser les employés que vous avez dans vos structures, mais aussi d'attirer les bons profils. Après, il y a bien sûr l'inflation, donc il faut être vigilant sur la structure des coûts, l'énergie. L'énergie était entre 2 et 3% du chiffre d'affaires, alors qu'aujourd'hui elle peut dépasser 4% sur certaines structures, donc il faut faire attention à la structure de charge pour être toujours rentable. Et bien sûr, la transition énergétique qui nous attend dans quelques années, qu'on essaie déjà d'intégrer dans nos projets. Donc, tous nos projets de conception d'hôtels que nous faisons actuellement intègrent toute cette nouvelle réglementation. Donc, nous faisons des projets beaucoup moins...
Consommateurs d'énergie,
merci. Et ensuite, dans nos hôtels que nous avons actuellement, nous passons à la labellisation. Notre établissement 5 étoiles a eu la labellisation clé verte.
D'accord.
Donc ça, c'est des choses qui vont devenir pratiquement indispensables et importants aussi dans l'image qu'on donne à nos clients, mais aussi aussi bien à nos salariés.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Valéria Savchouk, directrice générale de Terlia. Merci beaucoup Audrey Jourdain pour cette émission. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré. Et nous, on se retrouve bien le mois prochain pour un tout nouveau numéro.
Le Mag au carré en partenariat avec la lettre Mètre Carré.